Alors, ça sera la dernière question.
Oui, je voulais une petite précision sur le sens du mot Congo, ou les sens du mot Congo, puisque je crois que, à vous entendre, vous avez parlé des États Congo, c'est peut-être la référence africaine, mais je sais qu'en Guadeloupe, on donnait parfois un autre sens, si j'ai bien compris les recherches, au mot Congo, qui désignait, je crois, des travailleurs libres issus de l'Afrique, mais issus peut-être de différents pays d'Afrique. Donc, dans les exposés que vous avez faits, est-ce que vous pouvez préciser quel sens, au pluriel, vous donnez au mot Congo ?
Je vous remercie beaucoup de cette question, parce que ça permet de rappeler certaines choses importantes. Alors, le mot Congo, a un sens totalement différent dans le contexte africain. D'abord, c'est un mot avec un sens extrêmement prestigieux. Je vous ai présenté tout à l'heure le peuple Congo, qui correspond aujourd'hui à 10-12 millions d'habitants sur trois pays principalement, mais avec des variantes régionales, dialectales importantes. Ceci dit, tous les Congos se reconnaissent une origine commune, c'est celle de l'ancien royaume du Congo, qui est le plus connu des États Congo. Mais à côté de ce royaume du Congo prestigieux, qui était là au moment où les Européens arrivent, qui existait probablement depuis un siècle et demi, peut-être plus, il y avait d'autres États. Peut-être le Luango, qui était un État encore plus ancien, mais qui était plus petit, dans l'actuelle région de Pointe-Noire. Et ensuite, par la suite, avec l'influence européenne, d'autres régions de l'ancien Congo se sont émancipées. C'est le cas du Soyo, et c'est le cas du Ngoyo et du Kakongo. Donc des petits États côtiers qui sont développés à la faveur de la traite négrière. Donc c'est ce qui fait que quand on fait le bilan sur les 500 ans écoulés, il y a eu en gros 4 principaux États Congo. Donc 5 principaux États. Donc le Royaume du Congo, le Luango, le Ngoyo, le Kakongo. Voilà, 4. Voilà, c'est ça. Donc, mais le peuple Congo, c'est-à-dire les gens de l'an Congo, avaient une influence qui allait bien au-delà de ce cadre-là. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que le tiers sud du Congo-Brazzaville est peuplé de gens qui parlent Kikongo. Ce qu'on appelle la région du Bas-Congo, dont l'ex-Zaïre en RDC est de l'an Congo, et l'extrême nord de l'Angola est de l'an Congo. Par exemple, dans cette salle, il y a un ami qui est d'origine angolaise et qui est Congo comme moi. Voilà. Donc ça, c'est le contexte africain. L'une des particularités quand même des Congos, c'est la conservation d'une mémoire des origines. La plupart des Congos connaissent l'histoire des Congos, au moins les éléments principaux de cette histoire, et se la transmettent de génération en génération. Ce qui fait que, hors d'Afrique, par exemple à Cuba, où des Congos sont arrivés massivement fin 18e siècle, cette mémoire est très vivante. Il y a même des gens encore aujourd'hui dans la Santeria cubaine qui parlent Kikongo. Cette mémoire est vivante aussi en Haïti, parce que vous avez une partie du vaudou haïtien qui est d'origine Congo, et puis elle est vivante aussi au Brésil. Mais au-delà, quasiment dans toute l'Amérique du Sud, et jusqu'au sud des États-Unis, vous avez une mémoire Congo, sous une forme ou une autre. Parce que l'une des particularités des Congos, c'est d'avoir une pratique musicale très, très, très riche. Chez les Congos, il y a par exemple énormément de tambours de toutes sortes. Il y a toujours des chants à chaque étape de la vie. Et beaucoup de ces éléments musicaux, culturels, ont été perpétués dans les Amériques. Ça fait partie d'ailleurs actuellement de mes préoccupations. Voilà. Donc j'étais très surpris en arrivant en Guadeloupe de voir que le terme Congo était péjoratif. Comme l'a dit Marie-France, Congo Noué, Noué Congo, Congo Kapale Wani Wanya. J'étais très surpris. Parce que comme tous les Congos, on m'a appris la fierté de mes origines. Et donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces origines étaient perçues comme quelque chose de négatif ici. Voilà. Mais après, quand j'ai mieux connu la Guadeloupe, l'histoire de la Guadeloupe, j'ai mieux compris l'origine de cette stigmatisation. Et ça, d'ailleurs, ça rehausse encore plus le mérite de la famille Massimbo, parce que jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre comment, dans un contexte aussi hostile, ils ont pu garder un corpus de chants quasiment intact, un rituel avec les mêmes codes qu'en Afrique, même si bon, on considère qu'à la fin du 18e siècle, début 20e siècle, il y avait peut-être un encadrement religieux un peu plus lâche à Capesterre, etc. C'est vrai, mais quand même. Parce qu'il faut, de génération en génération, être capable de supporter l'hostilité. Hein. Il y a des amis guadeloupéens qui ne sont pas de la famille Massémo qui m'ont dit qu'à une certaine époque, ils allaient à Capesterre, assis aux grappes, mais cachés derrière les rasiers pour voir comment se passaient les choses. Bon. Donc, c'était vraiment des bêtes curieuses. Alors que quand on y réfléchit bien, cette cérémonie, elle est révélatrice de plusieurs choses sur l'évolution culturelle de la Guadeloupe. On peut, par exemple, par rapport à l'évolution du Gros Cas, par rapport à certaines traditions religieuses, etc. Enfin, on peut y trouver beaucoup de choses. Et on a tout juste commencé à l'analyser sérieusement. Donc il y a eu le travail de Justin Gandoulou, qui est un sociologue, mais je pense que, historiquement, on peut faire un travail approfondi. Voilà.
Eh bien, nous voyons belle l'année, Bamissé Jean Sondé, pour le travail là et café là. Et nous espérons que Kevin parle nous de traces musicales à Congo, en Guadeloupe, mais ça, c'est qu'il y a d'autres affaires.